podcast.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez On Air, le podcast de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Je m'appelle Sophie Cholet, je suis journaliste et je vous propose ensemble de tout comprendre sur un sujet de recherche, le temps d'un trajet en métro ou en bus. Le thème de recherche de notre invité est un geste que nous avons tous appris à l'école, qui devient même un art lorsqu'il est calligraphie et qui serait, selon le philosophe Michel Serre, le dernier des métiers manuels. Aujourd'hui, nous parlons de l'écriture manuscrite à l'ère du numérique. Bonjour Jérémy Dana.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes chercheur au CNRS, rattaché à l'équipe processus langagier et cognitif du laboratoire CLÉ de l'Université Toulouse Jean Jaurès et vos travaux sont, je précise, pluridisciplinaires. Alors, je parle d'écriture en tant que geste, Jérémy Dana, parce que c'est précisément le cœur de votre recherche. Vous n'étudiez pas la trace, le contenu de l'écriture, mais bien le geste. Pourquoi ? Parce qu'écrire, ça a un lien avec plein de fonctions du corps humain.
Alors effectivement, dans l'écriture, il y a cette distinction qu'il faut faire entre le produit de l'écriture, la trace écrite sur le papier, et le processus d'écriture, c'est-à-dire l'action, le mouvement qui génère cette trace. Et effectivement, moi je m'intéresse en particulier à ce processus-là qui évolue dans le temps, qui est un processus dynamique, mais je m'intéresse aussi à la relation qu'il y a entre manière d'écrire, donc ce processus, et contenu d'écriture. Parce que souvent on fait cette distinction-là entre manière d'écrire. À la limite, on pourrait même dire que c'est secondaire. Ce qui compte, c'est le contenu de l'information qu'on transmet. Mais en fait, il y a peut-être une relation qu'on étudie, en tout cas en profondeur, entre cette manière d'écrire et le contenu de l'écriture.
Alors justement, cette fameuse manière d'écrire, vous décortiquez en quelque sorte le mouvement et vous allez chercher ce qu'on appelle les variables cachées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Oui, tout à fait. Mais ce sont justement ces variables qu'on ne voit pas quand on regarde la trace écrite. Et effectivement, je m'intéresse à l'écriture, vous l'avez dit, de manière pluridisciplinaire, que ce soit à la fois d'un point de vue éducatif quand on s'intéresse à l'apprentissage de l'écriture, mais aussi d'un point de vue clinique quand on s'intéresse aux troubles de l'écriture, qu'on nomme les dysgraphies. Et effectivement, je m'intéresse à ces variables cachés qu'on ne voit pas quand on regarde la trace écrite, mais qui vont renseigner sur le mouvement qui génère cette trace-là. Par exemple, la pression qui est exercée par le stylo sur la feuille, qu'on ne voit pas quand on regarde la trace écrite, mais également l'inclinaison du stylo, ces variations de tenue du stylo au cours du temps, ces variations de vitesse, d'accélération, qui sont toutes ces variables cachées qui vont nous renseigner justement sur la qualité de l'écriture, non pas du point de vue du lecteur qui va regarder la trace écrite, mais du point de vue du scripteur lui-même.
Est-ce que vous pourriez me donner un exemple pour qu'on se figure, par exemple, pourquoi la pression telle ou telle du stylo sur le papier dit quelque chose, raconte quelque chose, en termes justement peut-être de difficultés d'apprentissage de l'écriture ou ce genre de choses?
Alors, quand on parle de la pression, effectivement, il faut faire une distinction entre la pression qui est exercée par le stylo sur la feuille et puis aussi la pression qui est exercée par les doigts sur le stylo. Il n'y a pas une relation linéaire entre cette relation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des enfants qui peuvent être en grande difficulté d'écriture, qui vont appuyer très très fort avec leurs doigts sur le stylo, et pour autant qui vont appuyer très très peu avec le stylo sur la feuille, de peur même de déchirer la feuille. Donc on peut imaginer que justement l'étude de ces variables-là, de pression notamment, peuvent être très pertinentes pour aller voir justement des troubles dans le contrôle moteur, notamment au niveau du contrôle de l'activité électromyographique musculaire qui est impliquée dans le processus d'écriture.
Dans vos travaux, vous utilisez le numérique, Jérémy Dana. Comment vous captez justement ces variables cachées via le numérique ?
Ben oui, c'est vrai que on est dans ce paradoxe du numérique, à la fois parce que le numérique impacte la quantité de pratique de l'écriture manuscrite, mais en même temps, le numérique, c'est aussi la solution justement pour nous aider à, d'un côté, mieux évaluer l'écriture numérique en l'enregistrant donc sur tablette graphique. Alors, il existe différents outils, mais moi, ce que j'utilise en particulier, ce sont des tablettes graphiques sur lesquelles on va fixer une feuille en papier avec un stylo à encre classique, mais pas si classique que ça, parce qu'en fait c'est un stylo magnétique et la tablette est magnétique et elle permet justement de capter les variables qui vont renseigner sur le mouvement d'écriture en même temps qu'on va recueillir la trace écrite sur le papier qui est fixé sur la tablette. Donc là, il y a cette tablette graphique, mais il y a aussi la question de la tablette numérique, où là on va pas utiliser un stylo mais un stylet, avec la question que pose évidemment le passage de l'écriture sur tablette graphique à l'écriture sur tablette numérique. Et là effectivement on n'a pas le même coefficient de friction du stylo sur la feuille qui a tendance à glisser glisser plus facilement sur la tablette. Et il y a des travaux de collègues français qui ont montré qu'effectivement, les enfants qui sont en train d'apprendre à écrire sont plus en difficulté pour écrire sur tablette avec un stylet, parce que justement, ils ont tendance à avoir le stylo qui risque de glisser plus facilement.
Donc ça, ça a un impact. J'allais vous demander justement sur quel public, entre guillemets, vous travaillez.
Alors, mes publics sont variés. Effectivement, ça va de l'enfant qui apprend à écrire jusqu'à la personne âgée avec certaines pathologies motrices comme la maladie de Parkinson. Et dans ce cas-là, effectivement, l'écriture n'est pas une finalité en soi, mais devient un outil, un moyen pour étudier les troubles de la motricité fine qui peuvent être très pertinentes à la fois, par exemple, pour le diagnostic précoce de la maladie de Parkinson, parce que justement, on sait que ça fait partie des premiers symptômes qui peuvent alerter le patient pour dire « Tiens, j'ai mon écriture qui a changé, elle devient de moins en moins lisible, et je vais quand même aller en discuter avec mon médecin. » Et puis le médecin qui peut être au courant de ça va le rediriger vers le neurologue. Et à ce moment-là, on va dans le processus de diagnostic. Donc ça peut aider au diagnostic, et puis ça peut aussi nous aider à évaluer l'effet de l'évolution d'une maladie. Et donc c'est ce que font justement les neurologues qui, à l'heure actuelle, utilisent encore le papier et crayon pour évaluer l'écriture des patients. Et on peut imaginer que dans un futur extrêmement proche, eh bien, ces outils numériques vont remplacer le papier et crayon, parce que justement on pourra utiliser aussi tous les avantages de l'intelligence artificielle pour déterminer toutes les variables qui vont qualifier très rapidement si l'écriture est moins bonne ou meilleure que la fois précédente lors d'un suivi de pathologie.
Le numérique donc peut aider au diagnostic, en tous les cas établir cela, mais ça peut aider, vous le disiez tout à l'heure, ça peut être aussi une solution, notamment pour l'apprentissage. Et dans vos travaux, vous avez notamment travaillé avec des sons. Est-ce que vous pouvez me raconter ça ?
Oui, c'est vrai que là, jusqu'à présent, je vous ai parlé surtout de l'aspect évaluation, que ce soit pour le diagnostic ou pour le suivi de l'évolution d'une maladie. Mais là où ça devient aussi très, très intéressant, c'est pour développer des solutions de rééducation de l'écriture. Parce que justement, on peut aussi utiliser le numérique qui va nous changer, notamment modifier la perception que l'on peut avoir de notre écriture pendant que l'on écrit. Parce qu'effectivement, écrire avec un stylo sur une tablette, eh bien, ça devient une encre qui est une encre numérique, qui peut devenir plus ou moins visible. Et donc, on peut, par exemple, s'intéresser à l'effet de cacher partiellement la trace écrite au cours de l'écriture pour forcer le scripteur à focaliser son attention sur le processus d'écriture et non pas sur le produit de l'écriture. Et ça, l'idée, c'est de faciliter ce passage-là d'un contrôle basé sur le produit de l'écriture, la trace écrite, vers un contrôle basé sur le processus d'écriture. Parce qu'on sait que chez l'adulte qui écrit très bien, vous et moi, on est capable d'écrire les yeux fermés parce qu'on a un contrôle de l'écriture qui est basé sur la mémorisation des informations motrices relatives à la manière de tracer les lettres et non pas forcément sur la forme des lettres, même si en fait il y a une association qui se crée dans notre cerveau entre cette forme des lettres et cette manière de tracer les lettres. Et donc on peut effectivement jouer sur la perception de la trace écrite, mais on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des techniques de réalité augmentée, notamment de réalité audio augmentée en rajoutant par exemple des sons dans l'écriture. Alors effectivement, on considère l'écriture comme une activité silencieuse, même si en fait cela dépend du support d'écriture. On se souvient tous du bruit de la craie sur le tableau, on se souvient, et c'est quand l'écriture devient audible, c'est souvent un exemple que je donne, eh bien le son transmet énormément d'informations à notre cerveau. On est capable de savoir si c'est l'enseignant expert qui est au tableau, ou si c'est l'élève novice qui est au tableau qui va faire casser la craie, on n'a pas besoin de lever la tête et de voir qui est au tableau, on peut deviner. Dans une certaine mesure, je disais souvent qu'on était même capable de deviner l'humeur de l'enseignant au son de la craie sur le tableau,
vrai,
en disant « Oula, aujourd'hui... »
Claque les poings.
Exactement. Donc, tout ça pour dire que quand nos actions motrices font du bruit, et en fait, il s'avère que de manière naturelle, si on veut faire du bruit, c'est issu d'une action motrice, eh bien ce bruit renseigne sur la qualité de cette action motrice et sur la nature de cette action motrice. Et donc à partir de là, on peut utiliser des sons de synthèse, des sons artificiels qui n'existent pas naturellement, mais qu'on va rajouter au cours de l'écriture, par exemple des sons qui grincent, qui craquent, pour justement utiliser cette métaphore sonore, cette évocation pour dire « mais le geste craque, alors j'entends mon geste ». Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir sonifier l'écriture afin de l'entendre pour mieux la ressentir et mieux la contrôler.
On apprend toujours à écrire avec un stylo à l'école, Jérémy Dana, mais ça ne va pas durer, car les claviers finalement sont partout, très tôt. Est-ce que peut-être qu'un jour, on apprendra directement à écrire sur un clavier, selon vous ?
Vous me questionnez, c'est savoir si je fais un métier has-been bientôt, c'est ça ? S'il va falloir que je réfléchisse à une reconversion ? C'est une très bonne question, effectivement, c'est une question qui se pose et qui s'est posée en fait dès le début des années 2000. Donc vous voyez, ça fait 25 ans qu'on se pose cette question et l'écriture manuscrite n'a toujours pas disparu, parce que justement elle a un poids culturel qui est extrêmement fort. Hein. Il ne faut pas oublier qu'elle définit le début de notre histoire avec un grand H et la frontière avec la préhistoire. Mais pour autant, effectivement, c'est une vraie question qui se pose sur quel serait l'impact du passage de l'apprentissage de l'écriture au clavier. Alors effectivement, quand on regarde l'adulte, vous et moi, on écrit de moins en moins avec un stylo dans les mains. Il y en a encore dans certains milieux, le milieu universitaire pour les étudiants qui nous écoutent. Effectivement, j'ose espérer qu'ils utilisent le stylo en dehors des examens, mais aussi pour la prise de notes, etc. Mais le fait est que dans la réalité, dans la vie de tous les jours, on utilise de moins en moins le stylo. Et pour autant, c'est paradoxal, on écrit de plus en plus à l'écrit, mais via des SMS, via des mails ou via des réseaux sociaux. Donc le passage de la transmission écrite se fait toujours, mais pas via l'écriture manuscrite. Et effectivement, quelles conséquences ça peut avoir à la fois sur le développement moteur, parce qu'il ne faut pas oublier que l'écriture manuscrite, c'est une activité donc, qui est latéralisée et qui participe même en fait, à stabiliser la latéralité manuelle chez l'enfant. Hein. Elle se stabilise relativement tard et l'activité graphomotrice en tout début de maternelle participe à la stabilisation de la latéralité manuelle.
La latéralité manuelle, en d'autres termes, c'est écrire
droitier-gaucher. Voilà. Et donc, effectivement, l'écriture au clavier, il ne faut pas oublier que c'est une activité qui est bimanuelle. On utilise les deux mains pour apprendre à écrire au clavier. On peut imaginer que demain, si tout le monde apprend à écrire au clavier, peut-être que ça aura une conséquence sur le niveau de latéralité qu'on aura. Alors, ça n'a pas forcément une grande importance, il faudra la déterminer, mais peut-être qu'il peut y avoir aussi des conséquences peu soupçonné sur des facteurs de risque, notamment sur les fonctions langagières. Mmh. Et donc ça devient hautement plus important parce qu'effectivement, on peut prendre un exemple qui est un exemple un petit peu insoupçonné, mais quand on regarde les troubles du langage oral, par exemple, et notamment le bégaiement, eh bien, il y a des vieux travaux menés dans les années 1930 qui ont montré une relation forte entre la proportion des gens qui bégaient et la proportion des gens qui étaient gauchers contrariés, c'est-à-dire à qui on a forcé à écrire avec leurs mains non dominantes à l'écriture manuscrite. Donc là, on peut imaginer aussi les conséquences que ça peut avoir sur la latéralisation hémisphérique, hein, donc c'est le fait de spécialiser les fonctions entre l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche de notre cerveau. Et le fait est que le fait de latéraliser d'un point de vue manuel sur le plan moteur peut aussi avoir des conséquences sur la latéralisation des fonctions langagières. Donc ça, il y a même des travaux très intéressants aussi menés par mes collègues à Marseille qui montrent justement et qui cherchent les origines du langage à travers une origine manuelle qui expliquait que les fonctions langagières principalement localisées dans l'hémisphère gauche viennent surtout de l'utilisation de la main droite, par exemple, pour communiquer, pour montrer des objets, etc. Donc il y a des travaux tout à fait passionnants sur les origines du langage et le lien qu'il peut y avoir entre la main et le langage.
C'est passionnant, effectivement. Moi j'ai une proposition, c'est remettre la carte postale au goût du jour. Hein. Ça serait très agréable. Non mais si je pose cette question, c'est pas pour rien, parce qu'il y a une autre question, vous qui vous taraude en tant que chercheur, et j'aimerais qu'on l'évoque avant de terminer ce podcast, c'est le contenu émotionnel de l'écriture, selon que l'on écrit justement à la main ou au clavier. Alors est-ce que c'est le même justement ce contenu émotionnel ?
C'est une question que j'étudie actuellement et qui m'intéresse particulièrement, et c'est vrai qu'on peut se poser la question si effectivement le journal intime sera de même qualité, aura la même vertu de pouvoir soulager aussi, de pouvoir transmettre ses émotions. Donc quel est l'impact, quelle est l'importance de l'outil scripteur, c'est-à-dire de l'utilisation du stylo ou du clavier sur la transmission d'un contenu émotionnel dans le texte, mais surtout sur l'état émotionnel du scripteur. Ça, c'est très important parce qu'il y a des techniques thérapeutiques qui sont reconnues, qui s'appellent l'écriture expressive, par exemple, qui sont utilisées pour des patients post-traumatiques. Le fait est d'utiliser des séances d'écriture expressive de 20 minutes où on demande aux patients de dire, mais exprimez vos émotions, surtout s'ils doivent relater sur un événement traumatisant. À ce moment-là, on sait que ça a un effet vraiment sur la prise de médicaments antidépressants, etc. Donc, c'est un effet qui est fort. La question qui se pose, c'est finalement pour les personnes qui sont en difficulté pour écrire à la main, puisqu'on écrit de moins en moins à la main, et donc du coup, on a de plus en plus de difficultés pour écrire ne serait-ce que 20 minutes avec un stylo dans les mains. Quand ça fait quelques mois qu'on n'a pas écrit, on
ça
a vite mal
à la main.
Exactement, on a vite mal à la main. Et donc, on peut se poser la question de se dire, mais finalement, peut-être que le passage au clavier peut aussi avoir des vertus en disant, mais finalement, toutes les ressources cognitives, attentionnelles qui sont allouées à la manière d'écrire, si cette manière d'écrire est plus simple, peut-être que ça va focaliser les ressources attentionnelles sur le contenu de l'écriture et donc améliorer le contenu de l'écriture et donc la transmission d'émotions dans le cas d'écriture expressive. Donc c'est une vraie question, même s'il y a d'autres théories, notamment issues de la cognition incarnée, qui montrent qu'effectivement, quand il y a un engagement, une expérience, une trace expérientielle du corps plus importante avec un investissement qui participe à la formation même des lettres qui forment les mots, eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, pouvoir écrire des mots, il y a une étude tout à fait récente qui est sortie il y a quelques mois, qui montre qu'effectivement, le fait d'écrire à la main des mots, avec des mots qui sont justement à contenu émotionnel fort, et ensuite de déchirer la feuille, suite à, ça pouvait réduire la colère, par exemple, etc. Donc, il y a pas mal de vertus qui restent encore à bien connaître avant de tirer un trait définitif au clavier, même si ce n'est pas simple, sur l'écriture manuscrite.
Et on le voit, votre champ de recherche est très vaste, Jérémy Dana. Petite tradition dans On Air, je vais vous demander si vous auriez un conseil de lecture, d'expo, de vidéo ou autre conférence sur ce vaste sujet de l'écriture manuscrite qu'on vient d'évoquer.
Alors j'en ai deux.
Ah.
J'en ai deux. Le premier, c'est une vidéo, un documentaire qui a été fait par Arte qui s'appelle L'Odyssée de l'écriture, en trois parties, et qui est magnifiquement fait, très très beau, donc en trois parties, et dont la troisième partie est consacrée justement sur la révolution numérique. Et le deuxième, le plus important pour moi en tant que Figeacois, c'est d'aller visiter le musée Champollion sur les écritures du monde à Figeac. C'est à la fois une belle ville et un très très beau musée, donc vous vous régalerez à aller visiter ce musée-là.
Un très grand merci, Jérémy.
Avec plaisir.
D'avoir accepté notre invitation. On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production, le vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J. Réalisation Cédric Perronnet, du pôle production, le vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et est accessible via le site www.univ-tlse2.com. de l'université. Et vous pouvez bien sûr retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J et sur les plateformes numériques. On Air.